Nous lisons de 1 Pierre chapitre 1 depuis le début ce que Pierre a dit ici aux croyants par le Saint-Esprit. Ce qu'il a eu à leur dire est également valable pour nous en ces jours. Lisons 1 Pierre chapitre 1. Moi, Pierre, apôtre de Jésus-Christ, je salue les étrangers qui vivent dispersés dans le pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie. Verset 2 est élu selon la préscience de Dieu le Père dans la sanctification de l'Esprit pour l'obéissance et l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient accordées toujours plus abondamment. Verset 3, « Loué soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui, selon sa grande miséricorde, nous a fait naître de nouveau pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. » Verset 4, « Pour un héritage incorruptible qui ne peut ni se souiller ni se flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux, à vous qui, par la puissance de Dieu, être gardé par la foi pour le salut, prêt à être manifesté dans les derniers temps. » Verset 6, c'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez plongé dans l'affliction par diverses épreuves. C'est en effet par là que l'authenticité de votre foi doit être éprouvée et qu'elle doit être trouvée plus précieuse que l'or qui est corruptible. Mais dont l'authenticité est éprouvée par le feu et est pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse. Parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Verset 10, les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigations. Verset 11, ils ont cherché à savoir quel temps ou quel genre de temps l'Esprit du Christ agissant en eux leur indiquait quand il leur attestait d'avance les souffrances destinées au Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Verset 12, il leur a été révélé que par leur service, ils ne devaient pas se transmettre à eux-mêmes, mais vous transmettre précisément ce qui vous a été annoncé maintenant par les hommes qui vous ont prêché le message du salut par la puissance du Saint-Esprit envoyé du ciel, des choses dans lesquelles les anges désirent plonger leur regard. Seulement peut-être jusqu'ici, cette précieuse et sainte parole de Dieu, Pierre, cet homme de Dieu, a salué dès le début tous les saints qui vivaient dans la dispersion, dans le pont, en Galatie, en Cappadoce et partout où ils se trouvaient. Il s'est souvenu de tous devant Dieu et les a salués au nom du Seigneur. Et il leur a adressé des paroles de consolation, leur demandant de ne pas perdre espoir, de ne pas perdre l'espérance, mais de regarder ce qui est préparé pour eux dans cette gloire. Car nous savons qu'il y a quelque chose de réservé pour eux, oui, quelque chose de préparé qui ne se trouve peut-être pas sur la terre, certainement pas, que Dieu a préparé pour ceux qu'il aime. Et puis, comme il le dit encore ici, les prophètes ont déjà prophétisé que cette grâce leur serait que cette grâce leur serait accordée, que la rédemption viendrait, que le salut leur serait donné. Cela leur a été annoncé par les prophètes. Même les prophètes ne savaient peut-être même pas quand cela se produirait, mais ils devaient le prophétiser par l'Esprit de Christ qui agissait en eux, comme nous l'avons lu, qui agissait en eux. Et il est certain qu'ils attendaient avec impatience que ce salut se manifeste. Mais Pierre entend comme de Dieu se lève et dit peut-être, maintenant les promesses faites par les prophètes sont accomplies. Maintenant, ce que ces hommes ont dit à l'avance par le Saint-Esprit, c'est réalisé. Même s'ils ne savaient peut-être pas du tout quand cela allait se produire, personne ne le savait peut-être, mais tous l'attendaient avec impatience. Et nous aimerions dire, frères et sœurs, que nous aussi, nous attendons quelque chose avec impatience. Nous attendons le matin avec impatience, avec plus d'impatience que la sentinelle. Attendons, nous, quelque chose. Qu'est-ce que nous attendons? En ce jour, ils attendaient le salut de Jésus-Christ, qu'il vienne, car il était annoncé, il était prophétisé que la grâce viendrait, que le salut viendrait et que le salut viendrait. Et Pierre pouvait alors dire, maintenant, tout est accompli. La promesse est accomplie et tout est arrivé comme cela avait été prophétisé. Frères et sœurs, nous pouvons désormais y participer, nous aussi, avec joie, parce que nous savons de nos jours aussi, le Dieu vivant a parlé. Il a parlé en effet et a fait connaître sa venue. Et nous l'attendons. Nous attendons l'enlèvement. Nous attendons qu'il vienne chercher les siens. Et il est certain que comme ceux qui ont attendu, n'ont pas attendu en vain, car les promesses de Dieu demeurent, elles ne chancellent pas à jamais, éternellement, nous avons chanté. Il est certain que le jour vient, que l'heure vient où le Seigneur viendra chercher les siens dans son royaume, dans sa gloire. Frères et sœurs, n'est-ce pas là quelque chose de merveilleux? C'est quelque chose de précieux. Nous pouvons nous réjouir et participer à l'appel qui a été lancé. Le simple fait que nous y ayons été jugés dignes par Dieu d'entendre cet appel, de l'accepter et que nous ayons pu venir exactement comme nous sommes. Nous sommes donc reconnaissants au Seigneur de nous avoir réunis ici ce soir pour invoquer son nom glorieux, l'adorer, lui apporter l'honneur et la louange, car tout honneur et toute gloire lui sont dus. Comme je l'ai dit au début, le temps est très sérieux. Il est grave, il est très sérieux, vraiment. On ne sait pas ce qui peut arriver demain ou après-demain. Oui, on ne sait pas ce qui peut déjà se passer ce soir. Cette nuit, l'heure est vraiment très grave. J'ai entendu dire que au Proche-Orient aussi, tout est sur le fil du rasoir, que là aussi, cela pourrait recommencer. Mais notre espérance est placée dans le Seigneur. Et nous savons que tout doit s'accomplir. Tout doit se passer comme il le veut, comme il l'a dit. Mes frères et sœurs, parce que nous voyons tout cela s'accomplir devant nous, nous pouvons relever la tête et savoir que notre rédemption est proche. Et ainsi, nous pouvons rendre grâce à Dieu, l'adorer et lui rendre gloire. Il est certain que frère Franck nous adressera encore quelques paroles tout à l'heure, des paroles de foi et de réconfort. Nous devrions peut-être faire une prière commune maintenant et frère Franck pourra alors nous parler. Dieu fidèle, nous te remercions de tout cœur, même pour cette heure du soir. Nous te remercions pour ta sainte et précieuse parole. Nous te remercions, Seigneur, pour l'appel qui a été lancé, que nous avons pu entendre et que nous avons pu venir nous aussi. Seigneur fidèle, ce soir encore, nous sommes venus ici, non pour le plaisir, non pour passer le temps, mais notre désir est au Seigneur, plus du Sauveur, jusqu'à la fin, de recevoir plus de toi. Seigneur, nous nous confions en toi, jour après jour, quelle que soit la tempête. Seigneur, souvent nous pouvons trébucher, souvent nous pouvons tomber, Seigneur, mais nous nous relevons, nous nous remettons debout et nous revenons à toi, ô Seigneur, car vers qui irions-nous? Seigneur, tu es notre Dieu, tu es notre Rédempteur, tu es notre Sauveur, tu nous as délivrés, libérés, tu as fait de nous ton peuple, Seigneur. Seigneur, nous sommes ici, ton peuple, tes enfants se tiennent ici devant toi ce soir pour entendre ce que tu as à dire, pour t'apporter la gloire et l'adoration. Seigneur, nous sommes ton peuple, le troupeau de ta main. Alléluia. Gloire à ton nom merveilleux. Seigneur, bénis-nous tous, nous qui sommes déjà venus ce soir et tous ceux qui viendront encore, ainsi que les réunions qui nous attendent, Seigneur, qui sont devant nous. Seigneur, nous te confions tout. Ô Seigneur, tu connais tout. Ô Seigneur, tu veux parler. Ô Seigneur, tu veux te faire connaître. Ô Dieu fidèle, tu veux révéler encore ce qui doit encore être révélé. Seigneur, nous nous confions en toi. Nous nous appuyons sur toi. Seigneur, car tu es notre refuge. Tu es notre secours. Tu es devenu tout pour nous en tous. Nous sommes donc heureux, Seigneur, d'être ici ce soir encore pour chanter ton précieux et saint nom, pour t'apporter notre adoration. Reçois l'action de grâce, la reconnaissance, Seigneur. Reçois l'honneur, reçois la louange et la gloire de notre cœur et de notre bouche à tous. C'est ma prière au nom de Jésus. Amen. Amen. Je vous prie. Louange et remerciement. Ô Seigneur, de nous permettre d'être ici pour adorer. Cette heure n'était pas prévue, mais que pouvons-nous faire de mieux que de nous réunir pour adorer et prier ardemment le Seigneur de nous bénir, de nous préparer et de penser en même temps à tous les frères et à toutes les sœurs qui ne peuvent pas être ici et qui sont liés à Dieu. En général, de porter l'œuvre de Dieu sur notre cœur. Comme c'était le cas dans l'Ancien Testament, où les sacrificateurs portaient le pectoral avec les 12 pierres qui représentaient le peuple d'Israël. Et nous l'avons maintenant dans le sermon que nous avons traduit, qui sortira peut-être en juillet. Frère Branham parle de ces 12 pierres. Et si une chose était de Dieu, alors une lumière surnaturelle rayonnait de ce pectoral. Et alors, tout le monde savait à 100% la chose est de Dieu. Dans la traduction de Luther, le terme est « lumière et droit » dans la Menge, Urim et Thummim. Et on peut le lire souvent dans l'Ancien Testament, 5 fois directement dans Moïse. Avez-vous déjà entendu cette parole? Jamais lu? Je ne le trouve pas non plus du premier coup. Et ce n'est sans doute pas mon intention, mais j'ai fini par le lire, juste pour que vous sachiez que c'est écrit certainement dans l'Exode, quelque part dans les deuxièmes chapitres, il devrait être dit que ces lots sacrés ont été placés dans le pectoral. Mais comme je l'ai dit, nous n'allons pas nous occuper de cela maintenant. Quelqu'un l'a-t-il trouvé? Exode 28, n'est-ce pas? Exactement. Oui, Exode 28. Merci beaucoup. Exode 28, ici nous pouvons lire du verset 29. Aaron Exode 28, verset 29. Portera ainsi sur son cœur les noms des fils d'Israël sur le pectoral de l'oracle. Chaque fois qu'il entrera dans le sanctuaire, en souvenir permanent devant le Seigneur. Verset 30. Tu mettras dans le pectoral de l'oracle, verset 30, l'eau sacrée, l'ourim et le thummim, pour qu'il soit sur le cœur d'Aaron chaque fois qu'il se présentera devant le Seigneur. Et Aaron portera ainsi sur son cœur l'oracle pour les Israélites en permanence devant le Seigneur. Il y a un sermon d'un certain âge où Frère Branham parle justement de ce sujet. Si quelqu'un racontait un songe, donnait une prophétie, une révélation, ce n'était pas Aaron ou ses fils qui en décidaient, mais la lumière et le droit. Au moment où l'homme en question racontait son affaire dans la maison de Dieu, devant le Seigneur, Dieu répondait ou ne répondait pas, l'un ou l'autre. S'il restait dans l'obscurité, alors l'homme pouvait s'asseoir. Sa révélation était alors de sa propre initiative et Dieu se taisait. Si c'était Dieu qui avait parlé, alors la lumière est venue et cette lumière a révélé le droit. Aujourd'hui, ce n'est pas moi ou quelqu'un d'autre qui dit le droit, mais cette parole de Dieu révélée par le Saint-Esprit, c'est elle qui dit la lumière et le droit. Et je crois que le temps est vraiment venu où chacun doit se présenter devant la face de Dieu. Non pas que tu te donnes une réponse et que je me donne une réponse, mais que le Seigneur puisse nous donner sa réponse par grâce. Nous sommes alors intérieurement satisfaits, car c'est alors que la lumière divine brille. Et partout où la lumière divine brille, Dieu viendra à son droit et nous aidera à faire valoir notre droit. Selon la parole de l'Écriture, ne ferait-il pas droit à rendra-t-il pas justice ou bien ne ferait-il pas droit à cet élu qui crie à lui jour et nuit? Nous l'avons déjà entendu, le temps est grave. Et en effet, dans Luc 21, il est dit qu'il y aura de la perplexité parmi les nations. Et c'est exactement le cas, pas seulement dans un domaine, mais vraiment dans beaucoup, dans tous les domaines, il y a de la perplexité parmi tous les peuples. Et chez ceux qui ne l'ont pas encore vu, cela va encore se manifester. Pour certains, c'est bien sûr déjà très évident. Mais nous voyons qu'il y a un désespoir et une perplexité absolue. Et l'humanité ne peut plus faire face au problème. Un pays ne peut pas faire face aux siens et encore moins aux autres. Mais nous nous regardons vers le Seigneur. Il me vient à l'esprit chaque fois que je pense à l'accomplissement de l'Écriture, à la manière on entend parler de tremblement de terre, n'était-ce pas à un moment donné de ces jours, quelques milliers de personnes ne sont plus là et il se passe ceci ou cela. Et on se souvient toujours à la parole de Dieu, que le Seigneur a prédit ces choses et elles s'accomplissent dans le monde entier. Elles s'accomplissent en Israël et alors nous nous tenons là en tant qu'Église du Seigneur Et nous nous demandons de quelle manière, dans quelle mesure, la parole de Dieu peut-elle s'accomplir en moi, en toi, en nous. C'est pourtant la question cardinale, la question principale. Tout le reste semble, pour ainsi dire, se dérouler de soi-même dans le programme de Dieu. Personne n'a besoin d'ajouter quoi que ce soit pour qu'un temps de disette se produise. La Bible dit que des temps difficiles viendront. Ils sont arrivés. Personne n'a besoin d'ajouter quoi que ce soit. Les tremblements de terre, personne n'a besoin d'aider. Pour que cela arrive, les guerres, les cris de guerre, le diable et les politiciens s'en chargent. Mais qu'en est-il de moi, de toi, de l'Église du Seigneur? Et nous aurons bien sûr le temps d'aborder la prédication, le cri de détresse. Il est sans, et il semble vraiment que Dieu veuille d'abord nous mettre dans un état correct pour pouvoir faire ce qu'il a décidé de faire. Et comme les prophètes d'autrefois qui prophétisaient sur la grâce qui devait venir sur nous, ils voulaient savoir à quel moment. Nous qui attendons ces prophéties, il y a aussi en nous un désir profond. Et nous demandons, Seigneur, combien de temps encore? Combien de temps allons-nous encore attendre jusqu'à ce que ces choses atteignent leur achèvement, leur point culminant? Et nous savons bien que Dieu veut nous parler en ces jours et qu'il nous parlera. Et c'est pourquoi nous voulons apporter les réunions devant la face de Dieu dans la prière et lui demander vraiment avec sérieux, non pas de manière habituelle, mais avec le cœur de prier. Il existe en effet deux types de prières. L'une dans l'intimité, dans la chambre où chacun peut prier pendant des heures pour son grand-père et sa grande-mère, son oncle et sa tante, et je ne sais pas, pour tous ceux qui sont sur notre cœur. Mais lorsque nous nous réunissons ici et que nous savons que les réunions sont devant nous, nous avons un souci particulier de porter cette affaire devant la face de Dieu, de lui demander la direction, la conduite de son esprit, de lui demander la parole juste, la prédication juste, l'attitude juste, l'illumination, la révélation, l'enseignement par sa parole et par son Saint-Esprit. Qu'il puisse nous arriver ce qui est arrivé à ceux qui ont vu le Seigneur de leurs yeux. Et je suis convaincu qu'ils ont été bouleversés. Chaque fois que le Seigneur ouvrait la bouche, il ne faisait qu'entendre. Et en effet, il est dit dans l'Évangile, jamais un homme n'a parlé comme celui-ci a parlé. Et c'est ainsi jusqu'à aujourd'hui. Jamais personne n'a parlé comme notre Seigneur l'a fait. Et au sien, il a parlé clairement et distinctement. À la foule, il a parlé en parabole. Et les hommes sont partis avec les paraboles et les ont interprétées de leur propre chef et ils le font encore aujourd'hui. Puis le Seigneur se tourna vers ses disciples, les appela à l'écart et dit, « Il vous a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu. » Mais pas aux autres, car ils ne voient pas de leurs yeux et ils n'entendent pas de leurs oreilles. Mais Dieu nous a ouvert l'intelligence, la compréhension pour les Écritures. Permettez-moi juste de lire encore un peu rapidement et ensuite nous irons aussi bientôt en prière. ce passage de la première épître de Pierre, chapitre 1, pardon, parle au deuxième verset de l'élection de Dieu, au verset 2, est élu selon la préscience de Dieu le Père dans la sanctification de l'Esprit. 1 Pierre 1, verset 2. Pour l'obéissance et l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient accordées de plus en plus abondamment. En particulier, cette pensée, la sanctification de l'Esprit. Nous savons que notre Seigneur a demandé dans la prière du souverain sacrificateur dans l'évangile de Jean au chapitre 17, verset 17, sanctifie-les dans ta vérité, ta parole est la vérité. Il est question ici de l'élection et de la sanctification de l'Esprit. Chaque fois que la parole de Dieu est révélée par l'Esprit de Dieu et que nous sommes imprégnés de cette vérité divine. Croyez-moi, il est écrit dans l'évangile de Jean au chapitre 1 que sans lui, rien n'a été fait de tout ce qui a été créé, mais que tout a été créé par la même parole, par la parole. Et le Seigneur a même appelé le monde à l'existence par sa parole de toute puissance et il le porte ou même le cosmos et en général tout l'univers par sa parole de toute puissance, par sa parole créatrice. Ces derniers jours, nous avons compris de manière tout à fait nouvelle la signification de la parole de Dieu. Il ne s'agit pas d'un enthousiasme à propos de n'importe quelle chose, mais c'est la parole sainte de Dieu par laquelle toutes choses arrivent. Et Dieu a parlé autrefois de diverses manières par les prophètes. Et dans les derniers jours, il a parlé dans son Fils. En effet, c'est dans le Fils que toute la parole qui a été prononcée par les prophètes s'est faite chair, a pris forme, est devenue réalité. Les promesses qui ont été faites à l'Église, qui ont été faites à l'épouse, doivent maintenant devenir réalité et trouver leur accomplissement. Il n'y a pas un chemin qui pourrait passer à côté de cela. Ainsi, lorsqu'il est dit ici que nous avons été prédestinés et choisis pour la sanctification de l'Esprit et pour l'obéissance et l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Ces trois choses vont toujours ensemble. La sanctification par l'Esprit, l'obéissance à la parole de Dieu opérée par Dieu et l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Voilà ce que le Seigneur veut faire aujourd'hui en moi, en toi, en nous tous. Non pas une sanctification faite par soi-même, mais une sanctification de l'Esprit. Non pas une justification personnelle, mais une justification divine par la foi en Jésus-Christ qui a offert un sacrifice parfait sur la croix à Golgotha. Non pas aspergé de quoi que ce soit, mais sous l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Une parole qui m'est venue à l'esprit se trouve dans Romains au chapitre 15. Il nous y est dit très brièvement quelque chose à propos de la prière et cela convient peut-être tout de même ici. Et puis, encore une parole tirée de 1 Thessaloniciens chapitre 5. Ici, dans Romains chapitre 15, verset 3, il est écrit qu'à Christ aussi n'a pas vécu pour se plaire à lui-même. Mais comme il est écrit, les outrages de ceux qui t'insultent sont tombés sur moi. Verset 4. C'est ainsi que tout ce qui a été écrit autrefois a été écrit pour nous, pour notre instruction, afin que nous persévérions dans l'espérance, par la persévérance et par la consolation que donnent les Saintes Écritures. Verset 5. Mais que le Dieu de qui viennent la persévérance ou la patience et la consolation vous aide à avoir entre vous des sentiments d'union à la manière de Jésus-Christ. Verset 6. Afin que, unis d'une seule bouche, vous puissiez louer le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Encore une fois, une pensée s'imbrique dans une autre. L'une est la condition de l'autre et l'une entraîne l'autre. Nous lisons concernant la consolation que les Saintes Écritures accordent. Et c'est une consolation divine. Mais quand les hommes nous consolent, c'est éphémère. Lorsque Dieu nous console, il le fait en envoyant le Consolateur, à savoir le Saint-Esprit. Et il a dit, je vous enverrai, moi, le Consolateur, l'Esprit de vérité, et il vous conduira dans toute la vérité. Or, nous avons ici le passage de l'Écriture avec la consolation que l'Écriture accorde et avec l'espérance à laquelle nous tenons. Nous entendons parler de la persévérance, puis il est écrit, « Mais le Dieu de qui viennent la persévérance et la consolation ?» Cela ne vient pas de toi, et cela ne vient pas de moi, cela vient de Dieu. Et nous sommes ici pour recevoir tout ce que Dieu a à nous donner. Si nous avions déjà tout, ou si nous pouvions le prendre ou le donner, nous n'aurions même pas besoin de venir. Nous venons ici en disant, Seigneur, tu as fait la promesse, tu nous as consolés par ta parole et par ton Saint-Esprit, mais en même temps, tu as fait des promesses. Et nous voudrions profiter de ces promesses, nous voudrions en faire l'expérience. Mais le Dieu de qui viennent la persévérance et la consolation, également ce soir, puisse vous aider à posséder, à avoir les mêmes sentiments entre vous à la manière du Christ Jésus. Si nous voulons prier ensemble, et désirons que Dieu réponde, l'un ne peut pas aller à droite et l'autre à gauche dans des directions différentes. Mais alors, si nous voulons que Dieu réponde, nous devons être unis par le Saint-Esprit en Jésus-Christ notre Seigneur. Et cette union doit être à la manière de Jésus-Christ. Donc, pas à ma manière ni à la tienne, mais l'union à la manière de notre Seigneur Jésus-Christ. Cela signifie que nous marchons et trouvons tous le lien avec lui et que ce lien avec lui et de ce lien avec lui jaillira la bénédiction de Dieu. Ensuite, l'accomplissement se fera au verset 6, afin que vous puissiez d'une seule bouche unie louer le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Là où cette union divine n'existe pas, on s'oppose à la prière commune. On ne veut pas prier les uns avec les autres. Aucune prière commune n'est possible. L'un pense d'une manière, l'autre d'une autre. Et c'est un va-et-vient. Mais si seulement Dieu pouvait nous faire la grâce dès ce soir de nous incliner devant lui, d'être unis à la manière de Jésus-Christ. Et quand nous le voyons prier, il a lutté, il a supplié, surtout à Gethsémani. Et nous savons que les temps sont devenus sérieux. Et nous, non plus, nous ne pouvons pas éviter la question. Nous devons faire face à Dieu et lui demander de nous donner un cœur sans partage, de le servir et de lui faire confiance. Et il est dit ici au verset 6, Romains 15, afin que d'une seule bouche, afin que unis d'une seule bouche, vous puissiez louer le Dieu et Père, notre Seigneur Jésus-Christ. Vous puissiez. Cela signifie que ceux qui sont devenus croyants n'ont pas prié en comme marchent les oies. Vous savez ce que cela signifie. Chacun a déjà vu les oies. Elles ne marchent jamais à côté. Elles ne marchent jamais côte à côte. Elles marchent toujours l'une derrière l'autre, elles-mêmes. Et même si elles sont 15, cela n'a aucune importance. Elles ne marchent jamais deux par deux, l'une à côté de l'autre, jamais. Elles marchent toujours l'une derrière l'autre. Je me souviens du bon vieux temps, n'est-ce pas, comme ils marchent. Mais ici, il nous est montré que nous pouvons louer d'une seule voix le Dieu et Père, notre Seigneur Jésus-Christ. Et la parole tirée de la première épître aux Thessaloniciens, au chapitre 5, se réfère à nouveau à ce que nous avons lu précédemment. Il est dit ici, au chapitre 5, 1 Thessaloniciens, chapitre 5, à partir du verset 23. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même de fond en comble et qu'à l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, votre esprit, votre âme et votre corps soient parfaitement irréprochable. Verset 24, celui qui vous appelle est fidèle. Il l'accomplira aussi. Ce n'est ni vous, ni moi, nous nous mettons seulement à sa disposition. Il l'accomplit. Celui qui s'est exclamé sur la croix, tout est accompli. S'est souvenu de moi et de toi. Il accomplit tout en nous, nous qui sommes sous l'aspersion du sang de l'agneau, qui sommes disposés à obéir à sa parole et qui sommes prêts à laisser la sanctification de l'Esprit s'accomplir en nous. Et il est dit ensuite, au verset 24, celui qui vous appelle est fidèle. Il accomplira aussi. Il l'accomplira aussi. Si nous devions le faire, nous pourrions dire, Seigneur, l'un a essayé pendant 20 ans, l'autre pendant 30 ans, le troisième pendant 40 ans et le quatrième pendant 50 ans et cela n'a pas donné grand-chose. Pas ta tentative et la mienne, mais il est dit ici, au verset 24, il est fidèle. Celui qui vous appelle, celui qui vous a appelé, il l'accomplira aussi. Le croyez-vous? Il l'accomplira aussi. Alors nous ne sommes plus que ceux qui reçoivent, qui sont bénis, qui écoutent, qui reçoivent dans la foi et en qui Dieu fait ce qu'il a promis. Dans la parole d'introduction, nous avons entendu que les prophètes n'ont pas seulement prophétisé, mais qu'ils ont cherché, qu'ils ont sondé l'époque, qu'ils ont aspiré à savoir quand cela arriverait. Ils ne l'ont pas vu s'accomplir. Nous vivons à l'époque où les plus grandes et les plus puissantes promesses de la parole de Dieu trouvent leur accomplissement. Quelle grâce de pouvoir entendre et dire les yeux ouverts, les yeux oints, la parole révélée de Dieu pour ce temps de grâce. Seigneur, et de dire, Seigneur, sanctifie-moi par ton esprit dans ta vérité. ta parole est la vérité. Et je le dis déjà ce soir, non pas la vérité dont nous discutons, mais la vérité qui nous est révélée par le Saint-Esprit. Là où toute discussion cesse et où nous nous tenons effectivement sur le sol de la révélation divine, c'est là que Dieu donne la bonne réponse. Et alors un frère n'a plus besoin d'instruire l'autre, de lui demander « As-tu bien compris ? As-tu bien aussi compris ?» Ne t'occupe donc pas de cela. Occupe-toi de savoir si tu as compris. Et moi, si j'ai compris, car il est vraiment écrit, ils seront tous enseignés de Dieu. Et c'est l'enseignement absolument correct. Non pas que l'un saisisse simplement l'autre et lui dise, écoute, je vais te donner. Non, tu ne feras rien du tout et moi non plus. Nous allons tous être bien raisonnables. Nous allons nous apprivoiser, nous allons nous incliner devant Dieu et dire, nous laisser apprivoiser, donc nous allons nous incliner devant Dieu et dire, Seigneur, c'est à tes pieds que nous voulons nous asseoir en ces jours. Nous voulons te parler et nous voulons que tu nous parles. Parfois, il est préférable que les croyants parlent entre eux de choses terrestres. Car il n'y a pas autant de mal que lorsqu'il commence à parler de choses spirituelles. Les choses spirituelles font partie de la prédication. Elles font partie du service divin. Elles font partie de ce que Dieu s'est proposé de faire. Et cela est annoncé par la prédication. Et nous devrions vraiment prendre cela à cœur. Et alors Dieu sera avec nous. Il n'y aura absolument plus de mésentente possible. J'attends avec impatience le jour où le reste de la mésentente, cesse et où Dieu prend vraiment ses droits. En combien de temps un instrument quelconque n'est-il plus clairement accordé? Et parfois, je veux aussi vous le dire, même les bons experts, quand ils prennent un instrument, une corde est vite cassée, bang, donc elle saute et elle disparaît, n'est-ce pas? Que le Seigneur nous accorde. L'un n'écoutera pas l'autre comme le docteur, comme en bat le cœur, et il vérifiera un peu les reins, un peu ici, un peu là. Non. Non, c'est lui qui nous examine, c'est lui qui examine les cœurs et les reins. Il regarde à l'intérieur de nous, c'est lui qui le fait. Devant lui, nous voulons nous incliner avec lui, nous voulons parler. Et je vous le dis, si nous lui parlons ainsi, si nous lui demandons intimement de nous parler en toute clarté, non pas en énigme, non pas en parabole, mais de bouche à bouche, de bouche à oreille, face à face, il le fera en ces jours. Et nous en serons tous reconnaissants et heureux. Loué et exalté soit son nom merveilleux et saint. Amen. Je veux dire que si vous n'y voyez pas d'inconvénient et que vous pouvez vous agenouiller, que ceux qui ne le peuvent pas restent assis ou se lèvent, mais que ceux qui peuvent s'agenouillent et prient Dieu. Dieu, nous te remercions de tout cœur de nous permettre de fléchir les genoux, de te remercier et de te louer pour la grande grâce qui m'a été accordée, qui nous a été à tous accordée. Seigneur, nous ne pouvons pas faire quelque chose, nous ne pouvons pas prendre quelque chose de toi, mais nous venons à toi, ô Seigneur, nous levons les yeux vers toi, ô Seigneur, et nous savons que tu es capable de nous donner, ô Seigneur, ce dont nous avons besoin. En ce moment même, en ces temps ultime et grave, nous venons devant toi, Seigneur, et nous attendons, Seigneur, que tu portes ton peuple jusqu'au but, Seigneur, que tu nous donnes ce dont nous avons besoin, Seigneur. Nous t'adorons, Seigneur, ô Seigneur, viens puissamment au milieu de nous, sois présent, Seigneur, viens avec ton bon avec ton Saint-Esprit, accorde-toi-même accorde toi-même mon cœur. Seigneur, accorde notre cœur à tous, Seigneur. Non pas que l'un doive accorder l'autre. Non, Seigneur, accorde-nous au Seigneur et nous serons bien accordés au Seigneur. Au Seigneur, comme tu veux que nous soyons. Et alors, nos paroles résonneront, Seigneur, comme il te plaît, ô Seigneur. Merci, Seigneur, aussi pour cette heure du soir, pour ces moments où nous pouvons nous agenouiller devant toi, où nous pouvons te louer, Seigneur, où nous pouvons t'exalter, car tu es mon Dieu, Seigneur. Tu es mon Rédempteur. Tu es mon Sauveur, Seigneur. Tu as payé le prix, Seigneur. Par ton sang, nous sommes lavés, ô Seigneur. Merci pour cela. Alléluia. Au nom de Jésus. Amen.